Alexandre Mirlès est auteur de En attendant l'Europe, qui vient de paraître aux éditions de la Contre-Allée. Il est d'ailleurs dans le studio. Un voyage intellectuel, ce livre tout à fait inattendu, d'ailleurs pour un jeune auteur. Ce voyage nous emmène dans une nouvelle Europe, en compagnie de Claudio Magris, Louis Pascal, Ken Loach, Adam Globus, Andrei Plessou, Bogdan Bogdanovic, Adolf Muschke, oh, ça c'est difficile à prononcer, qui par-delà les rapports entre l'Est et l'Ouest dessine une géographie de la pensée européenne à la recherche d'un espace commun où repenser l'avenir. Alors aux élections européennes du 7 juin, l'abstention record était de 56,61%, en progression constante depuis 30 ans. Alexandre Mirlès, avez-vous une idée de pourquoi nous souffrons d'un déficit d'Europe? Vous qui avez fait le tour.
J'en ai plus qu'une, à vrai dire, mais l'idée qui m'a poussé à écrire ce livre, elle y est directement liée. J'ai commencé la rédaction d'En attendant l'Europe en 2006, début 2006, juste après, disons oui, quelques mois après le rejet de la Constitution européenne par les électeurs français et néerlandais. Et pour moi, ce rejet, c'était déjà un symptôme du désintérêt des citoyens envers l'Europe qui s'est senti aux dernières élections il y a quelques semaines. Je crois que ce qui manque, en particulier, ce que j'ai cherché à combler modestement en écrivant ce livre, c'est un discours sur l'Europe qui puisse intéresser les citoyens. C'est qu'on pose des questions qui ont trait à la vie des citoyens, qu'on cherche à réfléchir à comment l'intégration européenne a modifié nos vies, quelles sont ses limites. Où allons-nous? De se poser des questions fondamentales. Et pour cela, les intellectuels, les penseurs ont un rôle à jouer, qu'à mon avis, ils ne jouent pas suffisamment. J'étais frappé, par exemple, en 2005-2006, quand la Commission avait décrété une pause de réflexion fondamentale sur l'état de l'Union après le rejet des traités constitutionnels, et bien que ce débat soit en quelque sorte monopolisé par des techniciens, des experts, des juristes, des économistes, des think tanks, qui avaient entre eux des discussions très intéressantes, très fouillées sur les institutions souhaitables sur l'Europe, les moyens d'affermir la démocratie européenne, mais que dans ce débat, et bien tout ce qu'on appelait les forces vives de la société au moment où l'Europe unie a été construite dans les années 40 et 50, c'est-à-dire les intellectuels, c'est-à-dire les artistes, les penseurs, eh bien, se tiennent sur leur quant à soi. J'essayais de demander pourquoi ce silence des intellectuels, des hommes de création, de vision, et en allant les interroger chez eux sur l'Europe, eh bien, de demander à des hommes que leur parcours ou leur œuvre avait poussé à s'intéresser sur l'Europe, sans pour autant en parler dans le débat public, à donner leur avis. Et peut-être que les citoyens européens, en lisant ces témoignages, en plus il y en a 12 avec des avis très différents, des controverses, des oppositions, peut-être que c'est là un débat auquel on a plus envie de participer, de débattre dans une soirée, en famille ou entre amis, et peut-être finalement d'aller voter.
Oui, avec un langage simple. Alors comment vous avez travaillé pour écrire ce livre et sélectionner ces intellectuels?
Alors, on entendait Comte Sponville tout à l'heure dans votre entretien, et j'ai beaucoup aimé le début de la conversation où il explique qu'il a voulu faire un livre d'aphorismes. Et je crois que j'ai, modestement, en commun avec lui, jeune auteur, ce goût des formes brèves et ouvertes. Je voulais faire un livre qui ne soit pas un bloc, un monolithe, qu'on n'ait pas envie de lire jusqu'au bout, qui soit un grand traité technique, mais au contraire, reprendre cette forme qui pour moi est européenne par excellence, la forme du dialogue socratique, on aurait dit Comte Sponville, ou de la conversation. Donc j'ai voulu avoir des vraies conversations. Et comment est-ce qu'on a une vraie conversation? Eh bien, c'est pas en téléphonant à 100 intellectuels choisis parmi le top 100 des personnalités les plus en vue en Europe, et en leur envoyant un questionnaire standard.
Ah non, ça marche pas.
Ça marche pas. Donc j'ai fait une méthode assez empirique, mais a posteriori que je ne regrette pas, qui consistait à aller voir toutes ces personnes chez elles, en préparant très soigneusement les entretiens, et en commençant par les personnes que j'aimais, que j'admirais. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai voulu aller voir Bogdan Bogdanovic. Je suis sûr que ce nom évoque assez peu de choses à la plupart de vos auditeurs.
Pas grand-chose, en tout cas.
Je suis même surpris qu'il y en a quelques-uns qui voient de qui il s'agit. Et pourtant, Bogdan Bogdanovic a été un des personnages fondamentaux, essentiels de la Yougoslavie d'après-guerre. Il a été, après avoir été résistant, c'est un homme qui a 85 ans aujourd'hui, après avoir été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a rejoint Tito et est devenu son architecte officiel. Pourquoi aller le voir lui? Eh bien parce que il me semble qu'il a été au cœur de certains problèmes qui se posent à l'Europe. Je vous donne des exemples. Il a donc construit les monuments pour Tito de commémoration de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ce n'est pas anodin, il s'agissait de faire des monuments qui soient communs à six peuples, six nationalités qui s'étaient battues entre elles et de façon sanglante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 500 000 Serbes ont été massacrés dans les camps croates ou oustachis. Et après, Bogdanovic a dû faire un monument célébrant la lutte de toutes les nations contre le fascisme. Et ça, pour moi, c'est une question qui se posait en Yougoslavie, mais qui se pose aussi en Europe. Se mettre d'accord sur un récit de l'histoire européenne, apaiser les différentes mémoires, la réconciliation franco-allemande en est un exemple. Bogdan Bogdanovic, il l'a fait non pas de façon théorique, mais vraiment en l'incarnant dans des monuments. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il a été maire de Belgrade dans les années 80. Et Belgrade, c'est une ville qui est européenne par excellence, parce qu'elle était à l'époque cosmopolite. Elle est aux confins de deux grands fleuves, le Danube et la Save, qui sont aussi des voies de communication à travers toute l'Europe. Elle est un carrefour entre l'Est et l'Ouest. Et c'est dans ces villes comme ça, à mon avis, ces villes de confins et de contrastes, que l'expérience de l'Europe est la plus forte, parce qu'on est obligé de coexister avec l'autre, avec d'autres nationalités. Et enfin, troisième chose pour laquelle j'ai voulu aller le voir, il a connu l'exil. Bogdan Bogdanovic, en 87, quand Milosevic arrive au pouvoir en Yougoslavie, s'oppose à lui, critique le nationalisme, défend dans la presse sa vision cosmopolite de la Yougoslavie et du monde. Et après avoir eu un de ses meilleurs amis assassiné en plein jour dans les rues de Belgrade, il a dû se réfugier à Vienne. C'est là que je suis allé le rencontrer. Et pour moi, l'expérience de l'exil, du déplacement, du décentrement, c'est aussi une expérience européenne. Donc voilà, je vous ai pris un exemple dans mon livre qui vous montre que je n'ai pas vraiment choisi ces personnes sur des critères de notoriété. Ken Loach est connu, mais ouais. C'est peut-être le seul avec Claudio Magris et Jacques Delors qui sera familier au lecteur.
Et Louis Pasquale peut-être.
Ou Louis Pasquale peut-être, directeur du théâtre de l'Odéon. Mais surtout en étudiant des biographies individuelles et en me disant « Ah, lui !» Oui, il a vécu l'Europe, m'intéresse. Il sait ce que c'est.
Alors après ce grand tour d'Europe à l'ancienne, donc, hein, c'est un petit peu comme un grand tour
en train, à pied.
Des intellectuels du XVIIIe siècle en Italie. Mais vous avez élargi le propos, vous avez fait toute l'Europe. Donc après ce grand tour, est-ce que vous avez une idée plus précise de ce qui définit l'identité européenne ?
Alors, je dirais qu'au contraire, ce grand tour a brouillé les pistes. Avant, j'ai fait une cagne, donc je suis en principe capable de traiter en 20 minutes n'importe quel sujet de philosophie. Et d'ailleurs, je suis tombé à un oral sur l'identité européenne.
Ah,
alors j'avais mon petit topo, les valeurs, la démocratie, l'état de droit. Enfin, c'était très bien, je pense que j'ai une bonne note d'ailleurs. En voyageant, je me suis aperçu que ça volait en éclats. C'est-à-dire que ces mots-là, j'aime beaucoup un texte de Cioran, l'écrivain roumain, d'ailleurs cité par le philosophe André Pléchou dans ce livre, qui dit que les valeurs naissent du tourment d'où elles sont nées. Mais une fois ces tourments historiques passés, eh bien elles deviennent des coquilles vides. Il a cette expression. Et d'ailleurs, Hannah Arendt reprend l'expression en disant que les fameuses valeurs européennes ne sont devenues que des coquilles vides, bonnes à régler tous les différends. Donc, j'ai dû changer de méthode en cours de route, quitter cette approche très théorique, très rhétorique des valeurs que André Pléchou, je ne résiste pas à vous lire l'extrait parce que c'est donc le philosophe roumain qui raconte sa lassitude de ce débat sur les valeurs en disant ces fameuses valeurs, la culture, le patrimoine, ils viennent toujours orner la fin des discours, mais on sent bien que ce n'est pas l'essentiel. Plutôt une décoration annexe, pour ainsi dire, le rococo du discours politique. Alors moi, à l'inverse, ce que j'ai voulu faire, c'est étudier l'identité européenne, non pas à l'échelle collective, à l'échelle philosophique, mais à l'échelle des personnes. La question que je me pose dans ce livre, c'est comment devient-on européen ? Je crois qu'on ne devient pas européen en se proclamant sa foi dans la démocratie, dans l'état de droit, mais en vivant des expériences, de démocratie peut-être, mais aussi de voyage, d'immigration, de rencontres, de mise en question, qui rapprochent de l'Europe. Et j'ai pris ces 12 personnalités européennes, qui peuvent être europhiles et eurosceptiques d'ailleurs, qui peuvent être pour ou contre la construction européenne, et leur dire quel sentiment éprouvez-vous pour l'Europe ? À quelle image, à quel lieu, à quelle expérience de votre vie l'Europe est-elle associée ? Si vous vous sentez européen, l'êtes-vous devenu ? Et comment ? Et comment plus d'Européens pourraient vivre ces expériences-là, qui forcent à se convertir en quelque sorte à l'Europe ? Moi, ça me semble beaucoup plus fécond qu'une réflexion in abstracto sur les valeurs. Même si, pour le dire d'un mot, celle-là n'est pas absente de mon livre. Par exemple, on a une discussion que je trouve assez intéressante avec l'écrivain italien Claudio Magris sur le relativisme. L'Europe doit-elle négocier avec n'importe qui ? L'Europe, par exemple, qui soutient la démocratie, qui finance la démocratie au Proche-Orient, doit-elle négocier avec le Hamas démocratiquement élu ? Là, une discussion fondamentale sur les valeurs, sur l'éthique est nécessaire. Maintenant, en troisième partie de discours politique dans un meeting du dimanche, ça me semble assez stérile.
Oui, ça c'est sûr. Alors justement, à propos de position politique, est-ce que vous vous sentez proche des fédéralistes ?
J'en suis proche intellectuellement. D'ailleurs, une petite coïncidence, c'est que mon grand-oncle, Alexandre Marc, a été l'un des animateurs de la pensée fédéraliste, avec Denis Drougemont dans l'entre-deux-guerres.
Ben, je ne le savais pas. Donc.
Alors, je ne peux pas dire que je suis un fédéraliste, parce que mes cousins, justement, Marc, me considéreraient pas comme des leurs. Eux refusent la construction européenne telle qu'elle a été menée, parce qu'ils la trouvent trop intergouvernementale. Moi, je suis plus conscient des compromis qu'il faut faire. Mais s'il y a une chose que je dois retenir de la pensée fédéraliste, j'ai d'ailleurs écrit un texte là-dessus dans ce petit livre En attendant l'Europe, c'est que le fédéraliste n'a pas peur de la complexité. Il n'a pas peur de l'hétérogénéité. Je dirais que ce petit livre, c'est un livre qui est fait dans un esprit fédéraliste. Pourquoi ? Mais parce que plutôt que de choisir 12 personnes représentatives, comme dans un sondage, avec toutes les générations représentées, avec autant de femmes que d'hommes, avec autant de pays, un bel équilibre, j'ai cherché l'hétérogénéité.
Vous êtes allé le chercher aux confins, d'ailleurs,
voilà.
Aux marges.
Voilà, et ça, c'est la méthode fédéraliste. Le fédéraliste, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de penser à différentes échelles et de penser le conflit. Et pour ajouter quelque chose, je dirais que là où je me sens le plus proche des fédéralistes, c'est que le fédéralisme n'est pas une méthode de consensus. Et que ce que je reproche en particulier aux institutions européennes aujourd'hui, en particulier au Parlement, qui est un espace de démocratie où on devrait s'opposer plus nettement, c'est l'esprit de consensus qui y règne. Moi, je crois que le consensus est utile pour prendre des décisions techniques, il est utile dans la diplomatie entre États, mais dans le débat intellectuel, eh bien, il faut des points de vue, j'allais dire des points de vue extrêmes. Il ne faut pas que ça, mais j'ai aussi cherché à aller voir ce qu'on appelle, en souriant, des barbares en Europe de l'Ouest. J'ai voulu connaître le point de vue des Biélorusses, j'ai voulu connaître le point de vue des Serbes, y compris des nationalistes, des Turcs, des membres des minorités, parce que c'est en diversifiant le plus possible les points de vue intellectuels qu'on arrive à la vérité, du moins pour les fédéralistes.
Alors, pour continuer ce débat, je pense que le mieux, c'est encore de lire cet ouvrage. Hein. Cet ouvrage, c'est « En attendant l'Europe ». C'est Alexandre Mirlès qui en est l'auteur. Et c'est les éditions de la Contre-Allée qui l'ont édité. Alexandre Mirlès, merci.
Je vous en prie.